Alors pour le message de ce matin, je vous propose que nous continuions les parallèles qu'il y a entre le serment sur la montagne de notre Seigneur Jésus, bien sûr, à l'évangile de Matthieu, et l'épître de Jacques. Et puis je vous rappelle que la première fois, nous avions vu comme premier point la compassion, ensuite comme deuxième point faire la paix, comme troisième point, se réjouir dans l'épreuve, et comme quatrième point, respecter toute la loi. Puis dans le second message, hein, puisqu'on est déjà au troisième aujourd'hui, dans le second message, j'avais abordé le point de la colère, et là je vous relis ces passages bibliques simplement. Donc la colère dans Matthieu 5, verset 22. « Mais moi je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère, mérite d'être puni par les juges. Celui qui dira à son frère, Raca, mérite d'être puni par le Sanhédrin. Et celui qui dira insensé, mérite d'être puni par la Géhenne. » Matthieu 5, 22. Et le passage parallèle, Jacques 1, verset 19 et 20. « Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, l'un à parler, l'un à se mettre en colère, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. » Et nous avions donc vu la dernière fois l'importance de garder nos cœurs dans une bonne attitude envers nos prochains, que le Seigneur nous donne sa sagesse dans nos rapports avec les autres. Nous avions vu comme sixième point de parallèle, s'attacher exclusivement à Dieu. Je vous relis simplement les passages bibliques. Matthieu 6, verset 24. « Nul ne peut avoir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. » Matthieu 6, 24. Et Jacques 4, verset 4. « Adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu ? Celui donc qui veut être l'ami du monde se rend l'ennemi de Dieu. Être ami du monde, c'est rechercher de lui ses éloges, sa reconnaissance, être bien vu par la société environnante. Avoir l'amour du monde, c'est vivre selon ses valeurs, et l'une des valeurs principales de ce monde est celle de l'argent. Nous ne pouvons servir de maître dans nos vies. Nous avions vu la perfection, et nous avions lu Matthieu 5, verset 48, « Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. » Jacques 1, verset 4, « Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. » Et nous avions regardé un petit peu plus en détail ce qu'est la perfection, et on avait vu plusieurs points, et nous allons continuer sur ce domaine de la perfection. Nous avions vu « parfait dans la patience que nous témoignons dans les épreuves », Jacques 1, verset 2 et 4, je lis, hein, parce qu'on a vu tout ça la dernière fois. « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que nous soyons parfaits et accomplis sans faillir en rien. » Nous avions vu la perfection dans la joie, Jean 17, verset 13. « Et maintenant, je vais à toi, et je dis ces choses dans le monde, afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. » Le salut, le fait d'être un enfant de Dieu, et même simplement de savoir que Jésus-Christ est monté au ciel et qu'un jour il reviendra, doit nous conduire dans une joie parfaite. Amen. Et il est bon parfois de revenir à la simplicité de la foi chrétienne. Des fois, il est bon de revenir aux choses toutes simples pour retrouver cette joie parfaite. Des fois, peut-être on complique. Hier, j'ai eu l'occasion de témoigner à une dame qui était d'arrière-plan catholique, puis je buvais un café, puis on a commencé à partager. Et en fait, cette dame, peut-être elle s'est éloignée de la simplicité de la foi chrétienne, parce qu'elle était donc arrière-plan catholique, elle était soi-disant en communion avec des saints qui lui parlaient directement, qui lui dictaient des choses à écrire. Vous voyez, c'était très mystique, hein, un petit peu, je pense que ça va à l'encontre de notre compréhension de la foi chrétienne. Mais quand vous êtes dans une démarche comme ça, vous compliquez la foi. Et des fois, nous aussi, peut-être, on se complique la foi. Il est bon de revenir aux bases, de se rappeler la joie qu'on avait dans le Seigneur, d'avoir reçu un si grand salut, d'être libre en lui et de pouvoir se réjouir de tout ce qu'il a fait pour nous et de toutes ses promesses. Et ben voilà, je pense que c'est ainsi que nous pourrons retrouver cette joie parfaite dans le Seigneur. Et si tu l'as au fond de ton cœur, ben tant mieux, hein. Tant mieux si tu es dans cette joie parfaite. Mais simplement le fait de savoir que Jésus est parti auprès de son Père et qu'il nous a partagé ces choses, déjà simplement avec ça, notre joie devrait être parfaite, parce que tout est accompli, parce que s'il est parti au ciel, de la même manière, il reviendra. Nous avions vu encore parfait selon la stature de Christ, juste à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état de l'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ. Et nous sommes appelés donc, en tant qu'homme et femme spirituels, à avoir une stature d'adulte dans la foi et non être des enfants flottants et dérivants à tout vent de doctrine. Et nous avons besoin, pour revivre cette stature parfaite de Christ, de connaître le Fils et d'être renouvelés dans notre intelligence et dans notre compréhension de qui il est, afin que nous puissions le discerner jour après jour dans nos vies. Nous allons maintenant continuer sur ce thème de la perfection. Jean 17, verset 23. Jean 17, verset 23. Et maintenant j'ouvre ma Bible, si vous voulez prendre le temps pour le faire. Je vous y invite, Jean 17, verset 23. Jean 17, au verset 23. Voici ce que nous dit le Seigneur. « Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un et que le monde connaisse que tu m'as envoyé. » Parfaitement un. Pour que l'Église soit parfaitement un, il n'y a pas 15 000 chemins, il faut être en Christ. Moi en eux et toi en moi. Et je pense que c'est le défi aujourd'hui, quand on voit toutes ces dénominations d'Église qui ne manquent pas de par toute la terre. Hein. Aujourd'hui, si on devait compter toutes les dénominations, eh bien dis donc, hein, si on commence maintenant, peut-être on n'aurait pas encore fini ce soir. Et ça montre combien l'Église est malheureusement aujourd'hui encore divisée. Et que, ben, c'est vrai que des fois, par des démarches humaines, elle cherche à se réunir. Mais le point central pour que l'Église puisse être unie de par le monde, c'est que les chrétiens soient en Christ. Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Si nous sommes en Christ, si l'Église de par le monde est en Christ, alors elle sera parfaitement une. C'est le défi d'aujourd'hui, hein? C'est le défi d'aujourd'hui. Pour que l'Église puisse être parfaitement une, elle doit revenir au Seigneur Jésus. Et ça, c'est pas un programme d'activité inter-église et de partage. J'ai rien contre toutes ces choses, hein. C'est pas mauvais en soi. Mais si Christ n'est pas au centre, l'Église sera jamais une. C'est pas possible. Et des fois, on veut réunir les Églises sans laisser les Églises revenir d'abord en premier à Jésus-Christ, se recentrer sur lui. Donc, être parfaitement dans l'unité n'est possible qu'en étant en Jésus-Christ. Amen. Parfait encore, nous voyons un autre point dans la Bible, parfait en connaissance, et cela se trouve dans l'Épître aux Colossiens, Colossiens 1, verset 28. Colossiens 1, verset 28. Colossiens 1, verset 28. Parfait en connaissance et en sagesse. C'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. Pour être dans la perfection du Christ, nous devons être exhortés et instruits. De quelle manière? Au travers de l'Écriture et au travers de la puissance du Saint-Esprit. Et que Dieu nous aide encore, jour après jour, à méditer sa parole, à grandir encore en lui, à ce que le Seigneur Jésus-Christ puisse prendre toute la place qui lui revient dans nos vies. C'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. C'est là le programme de toute une vie. C'est toute une vie ici qui peut-être va être résumée en quelques mots. Je pense qu'en effet, il nous faut un parcours pour grandir dans le Seigneur. Et le but, c'est de ce qu'un jour, nous puissions être présentés à Dieu, parfaits en Christ. Une autre perfection, Jacques 3, verset 2, parfait en ce qui concerne notre langue. Jacques 3, verset 2. Nous bronchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne bronche point en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. Nous bronchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne bronche point en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. Tenir son corps en bride, c'est aussi, bien sûr, savoir tenir sa langue en bride. Et tenir sa langue en bride, c'est ne pas avoir de propos déplacés envers son prochain, ou de porter peut-être de vains jugements, de dire, comme dit Jésus, que l'homme est prompt à voir la paille dans l'œil de son voisin et ne voit pas la poutre dans le sien. Honnêtement, je pense qu'on est un peu tous comme ça, de cette nature-là. On a plus de capacité à juger notre prochain, notre voisin, notre collègue, nos membres de famille que nous-mêmes. Alors, il y a peut-être des gens qui font l'extrême inverse. Il y a des gens qui sont tout le temps dans l'accusation sur eux-mêmes. Alors ça, c'est pas bon non plus. Il y a des personnes qui sont tout le temps sous le joug de l'accusation, qui sont tout le temps à se rabaisser. Alors ça, c'est pas non plus une chose qui glorifie le Seigneur, et c'est pas ce que Dieu nous demande. Mais que le Seigneur nous aide à tenir notre corps en bride et à tenir aussi notre langue en bride, et qu'il nous donne, nous avions vu la compassion, qu'il nous donne la compassion. J'étais au travail cette semaine à Bulle, et puis il y a une stagiaire qui était là, une jeune de 19 ans, qui je pense, qui jusqu'à présent n'a pas réussi grand-chose depuis qu'elle est sortie de l'école, et dans l'école, elle était en difficulté, parce que ça, je l'ai appris. Elle n'a pas pu suivre l'école, elle a dû suivre un programme spécial. Alors, bon, moi, je suis, entre guillemets, pas l'officiel là-bas à Bulle, je viens pour dépanner, mais la deuxième journée, elle m'a accompagné toute la journée. Alors que moi, je suis pas censé représenter la boîte et je suis pas censé former un apprenti. Mais vu qu'elle était peu considérée, ben les gens se sont peu intéressés à elle et ont peu pris du temps avec elle. Moi, je lui ai montré quand même 2-3 choses. Et puis au travers de ce que je lui ai montré, elle a pu me donner des coups de main aussi dans la mécanique. Et puis je sais qu'elle a été contente de sa journée. Donc voilà, ne jugeons pas. Parce que les jugements, franchement, ils étaient un peu en train de tomber sur cette pauvre jeune. Et puis, est-ce que c'est ce dont elle a besoin pour aller plus loin dans la vie? Ou est-ce qu'elle a besoin d'être entourée, encouragée? et que le Seigneur ben, lui trouve un chemin, je crois. Hein. Sachons tenir notre corps en bride et bien sûr notre langue. Vivre dans un amour parfait envers Dieu. 1 Jean 2, verset 5. 1 Jean 2, verset 5. Parfait dans un amour envers notre Dieu. 1 Jean 2, verset 5. Mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. Par là, nous savons que nous sommes en lui. Si celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Comment savoir si nous aimons vraiment notre Dieu? Alors nous ne sommes pas appelés à baser cela sur des critères émotionnels ou sur des sentiments, non qu'on ne puisse pas sentir intérieurement cet amour et qu'on ne puisse pas donner cet amour aussi au retour du Seigneur, mais ce n'est pas sur ces critères-là qu'on peut s'assurer que nous avons véritablement l'amour envers notre Dieu. Quel est le critère? Le critère, c'est est-ce que nous gardons sa parole. Mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. Et pour garder sa parole, eh ben, il faut la méditer. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on est dans une société assez stressante, assez remplie de plein d'activités. Et des fois, ça nous demande un effort pour ouvrir nos Bibles, hein, même que maintenant, on les a sur des applications, tic, 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 deux coups sur l'écran si ça marche bien, peut-être 3 ou 4 si ça ne veut pas, et puis hop, on a accès à la parole du Seigneur. C'est merveilleux, hein? Mais c'est vrai que c'est difficile des fois de prendre du temps à l'écart pour méditer sa parole, pour l'étudier, pour demander à ce que le Seigneur, par le Saint-Esprit, nous donne de la comprendre. Est-ce que nous reconnaissons pleinement l'autorité de la Bible sur nos vies? Je le crois, hein? Je le crois que chacun d'entre nous ici le reconnaît. Mais aujourd'hui, malheureusement, l'autorité de la parole de Dieu est vraiment à des luttes. Hein? C'est vraiment mis de côté, hein? Comme il était prié. Est-ce que dans l'école, est-ce qu'on enseigne encore la parole de Dieu? Je sais que nous avons l'amour de sa parole. Et par cet amour-là, le Seigneur se révélera encore à nous. Par la puissance du Saint-Esprit, il nous transformera, il agira dans nos vies et nous pourrons grandir dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et c'est bien là le signe que l'amour de Dieu, l'amour que nous lui portons est véritablement parfait. Demeurons donc dans sa parole. Voilà, j'ai terminé par rapport entre guillemets à cette parenthèse sur la perfection. On va passer à un nouveau point, des parallèles dans le serment sur la montagne et l'épître de Jacques. Alors, là j'ai une page qui me manque, voilà, elle est là. Ce point, qui est le 8e déjà, c'est les serments. Alors, la première référence se trouve toujours dans Matthieu. Matthieu 5, nous allons lire au verset 33. Les serments. Matthieu 5, verset 33. Vous avez encore appris qu'il a été dit aux anciens, « Tu ne parjureras point, mais tu t'acquitteras envers le Seigneur de ce que tu as déclaré par serment. Mais moi je vous dis de ne jurer aucunement, ni par le ciel, parce que c'est le trône de Dieu, ni par la terre, parce que c'est son marchepied, ni par Jérusalem, parce que c'est la ville du grand roi. Ne jure pas non plus par ta tête, car tu ne peux rendre blanc ou noir un seul de tes cheveux. Que votre parole soit oui, oui, non, non. Ce qu'on y ajoute vient du malin. Et ensuite, dans Jacques, c'est Jacques 5, verset 12. Jacques 5, verset 12. Avant toute chose, mes frères, ne jurez ni par le ciel, ni par la terre, ni par aucun serment, mais que votre oui soit oui, et que votre non soit non, afin que vous ne tombiez pas sous le jugement. En tant que chrétiens, si nous nous engageons dans des promesses, nous devons le faire sincèrement. Nous ne devons pas faire les choses à la légère en sachant que nous ne tiendrons pas nos engagements, nos serments. C'est-à-dire même prendre le nom du Seigneur ou prendre le nom de je ne sais pas qui pour donner l'impression qu'on s'engage sérieusement dans un domaine ou un autre. Par exemple, celui du mariage. Nous ne sommes pas appelés en tant que chrétiens à nous marier alors que nous avons peut-être pas de sentiments envers la personne et que nous faisons cela dans le but de tirer un profit peut-être sur le plan financier. Donc nos engagements ne doivent pas être pris à la légère dans le but de manipuler l'autre. Par un autre exemple, dans le cadre professionnel, faire des promesses tout en sachant que nous ne tiendrons pas les délais pour un travail et qui mettra l'autre partie dans de graves difficultés. Les gens savent qu'on est chrétien. Donc si on s'engage professionnellement dans un domaine ou un autre, et puis qu'en le faisant, on sait déjà qu'on ne pourra pas tenir les délais, il faut être franc. Mieux vaut dire, écoute, oui, je pourrais prendre ce mandat, mais voilà mes disponibilités, je ne pourrais pas, à la date que tu me demandes, l'accomplir. Et puis, soit la personne fera mandat, fera alliance avec vous, ou bien trouvera quelqu'un d'autre. Nos engagements ne doivent pas être pris à la légère. Et de même, dans le cadre commercial, si on commande du matériel ou des services, on doit savoir, on doit être sûr qu'on pourra payer ses factures. On ne doit pas faire ça non plus à la légère, parce que si on se dit « Oh, de toute façon, Dieu pourvoira », alors qu'on sait que le compte en banque est déjà vide. Alors, c'est sûr que des fois, il y a des pas de foi. Ça arrive que le Seigneur, tout d'un coup, il nous dit « Mais vas-y, je suis avec toi, et puis on doit faire un pas de foi ». Ça, c'est autre chose. Mais si on s'engage comme ça à la légère, en pensant que toujours derrière, c'est Dieu qui pourvoira. Je connaissais un monsieur d'un village voisin, il payait vraiment mal ses factures, et puis il disait, je sais plus quelle formule c'était, mais Dieu te bénira, ou bien, comment c'était monsieur Chevalet, tu te rappelles, maman, de Nérue, le grand-père? Il avait une formule, mais c'était terrible parce que ça, c'était quelqu'un qui venait du milieu évangélique, et puis ça discréditait la foi chrétienne. Il prenait des choses, et puis pour lui, c'était presque comme si ça venait du ciel, et puis que les gens, ma foi, ils avaient qu'à attendre qu'ils soient payés, voire jamais payés. Donc c'est vrai que c'était pas du tout un bon témoignage envers le Seigneur. Que notre oui soit oui, ou que notre non soit non. On peut dire non aussi, C'est pas parce qu'on est chrétien qu'on devrait s'engager dans tout, que tout ce que les gens viennent nous demander, on doit dire oui, parce qu'on est des bons serviteurs, et puis fidèlement, on doit tout accomplir ce qu'on nous demande. Non, c'est pas ça. On a le droit de dire non. Si la barque est chargée, on a le droit de dire non. Dire, écoute, là, je peux pas, là, c'est pas dans mes possibilités, là, c'est pas dans mes capacités. On doit pas non plus, le but, c'est pas qu'on coule, sous les demandes des autres. Un neuvième point, mettre en pratique la parole du Seigneur. Matthieu 7, verset 44. Matthieu 7, verset 44. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La suite, vous connaissez, hein? La suite, c'est sur cette fameuse parabole des deux maisons. Une a été construite sur le roc et l'autre sur le sable. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Et Jacques 1, le verset parallèle, Jacques 1, verset 22. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt comment il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Et c'est vrai que si on se borne à écouter la parole de Dieu sans la mettre en pratique, ce sera complètement vain. C'est un peu comme un homme ou une femme qui prendra un abonnement dans un fitness et qui n'y va jamais, pensant simplement que l'abonnement dans le fitness, au fitness va lui permettre d'être en meilleure santé, de se sentir mieux dans son corps. Hein. Ça ne fonctionne pas, malheureusement. Ce serait bien, hein? Hop, un abonnement fitness, et puis t'es en forme, t'as les bras de Schwartzy si t'es un mec, hein, et puis tu peux aller rouler les épaules dans la ville. Non, si t'as un abonnement fitness, il faut bien t'y rendre et puis commencer à faire ton travail. Et il en est de même pour chacun de nous par rapport à la parole de Dieu. Nous qui l'écoutons, construisons sur le roc, construisons sur sa parole, construisons sur le Seigneur. Et c'est quand même extraordinaire de se dire qu'aujourd'hui, nous avons notre vie, elle est à notre disposition, et nous pouvons choisir de construire sur le roc, de construire sur sa parole, de le laisser guider nos vies, et afin que notre existence puisse être basée sur du solide, sur des choses qui ne passeront pas. Amen. Construisons donc sur le roc, écoutons ce que nous dit la parole, mettons-la en pratique. Et dernier point, un petit point encore, le dixième point, demandez à Dieu, Matthieu 7, Matthieu 7, les versets 7 et 8, Matthieu 7, versets 7 et 8, demandez, et l'on vous donnera, cherchez, et vous trouverez, frappez, et l'on vous ouvrira, car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Jacques 1, verset 5, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Ces versets, je les trouve magnifiques parce qu'ils témoignent que Dieu ne nous a pas abandonnés sur cette terre. Bien au contraire, nous lui appartenons. Et puisque nous lui appartenons, nous pouvons lui faire des requêtes. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Demandez et vous trouverez. Pardon, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Demandez et l'on vous donnera. C'est comme mathématique. Si on demande à Dieu, Dieu va nous donner. Si on cherche, on va trouver. Si on frappe, il va nous ouvrir. Et ceci dans chacun de nos besoins. Le Seigneur, il sait de quoi nous sommes faits. Il sait que nous ne pouvons pas tout accomplir à la force de nos bras. Ce que nous pouvons faire, nous le ferons. Mais des fois, nous avons vraiment besoin de l'intervention du Seigneur. Et des fois, nous sommes dans des parcours de vie où nous allons prier le Seigneur pour des raisons de santé, pour des raisons peut-être économiques, pour des raisons de famille. Nous allons prier, nous allons intercéder, nous allons demander. Et Dieu nous donnera, nous allons chercher et nous trouverons, nous allons frapper et l'on nous ouvrira. Amen. Osons encore la foi sur cette terre, parce que Jésus nous a laissé ses promesses quand même extraordinaires. Gardons nos yeux fixés sur lui, lui qui est le rémunérateur de notre foi. Ce n'est pas en vain que nous avons cru et ce n'est pas en vain qu'aujourd'hui nous pouvons venir devant lui tout simplement avec nos besoins, avec nos demandes. Mais bon, ben, bien sûr, vous l'aurez compris, hein, on ne va pas venir avec n'importe quelle demande. On va pas, Dieu n'est pas un magicien, un distributeur disponible 24 heures sur 24. Par contre, quand nous sommes dans les besoins, alors oui, nous pouvons le prier. Des fois, on est peut-être découragé, mais on peut le prier. Nous avons cette possibilité de nous mettre à genoux, d'intercéder le Père et d'avoir cette conviction que Dieu, en son temps, nous répondra. Amen. Alors, je terminerai cette prédication sur ce dernier point. Sachons encore demander à Dieu. Je prends encore un petit moment dans la prière. Je vous invite à la prière. Seigneur, merci parce que tu es fidèle. Et merci parce que tu nous appelles à une perfection qui n'est peut-être certainement même pas atteignable d'un point de vue humain. Mais toi, Jésus-Christ, tu es venu jusqu'à nous. Et c'est en toi que nous voulons vivre. Nous voulons vivre libre, Seigneur, libre en toi, renouvelé par la puissance de ton esprit. Accorde-nous la foi encore ce matin de nous attendre à toi, de tourner nos regards vers toi, dans chacun de nos besoins, Seigneur. Nous voulons te les déposer à la croix, en sachant que, oui, en ton temps, tu y pourvoiras. Béni sois-tu, Seigneur, parce que tu ne nous as pas laissés orphelins dans ce monde. Tu ne nous as pas abandonnés au triste sort de nos existences, au contre-coup que nous pouvons traverser. Mais tu es le Dieu de la victoire et tu vas nous ouvrir la bonne porte, Seigneur. Tu vas entendre, Seigneur, nos requêtes. Et par ta grâce, tu nous donneras aussi de pouvoir demeurer dans ta parole, garder ta parole sur nos cœurs, de pouvoir la méditer, de pouvoir la comprendre, de pouvoir la vivre et de pouvoir te suivre jour après jour. Oui, Seigneur, nous sommes certains de voir encore sur la terre des vivants la manifestation de ta bonté sur la vie de chacun d'entre nous. Nous te disons toute notre reconnaissance de t'appartenir et que tu puisses bénir ton peuple ici et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen.